Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no.
Jusqu'à 22h.
Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no.
RTL.
Our day will come. And we'll have everything.
La curiosité est un vilain défaut.
Love is a losing game.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Cette voix, ce talent, cette fille à peine femme, une étoile filante, la chanteuse britannique Amy Winehouse est morte il y a presque 4 ans, le 23 juillet 2011. Une artiste géniale, une carrière fulgurante, un souvenir éternel. Bonsoir Frédéric Béguin.
Bonsoir, bonsoir.
Vous êtes journaliste au Parisien Magazine qui consacre en partenariat avec RTL une bio, un hommage à l'artiste. Et c'est aussi à l'occasion de la sortie au cinéma d'un documentaire événement. Que raconte-t-il ?
Il raconte la vie d'Amy Winehouse d'une façon qui n'avait jamais été employée encore, parce que avec énormément de témoignages exclusifs de très proches de la chanteuse qui ne s'était jamais exprimée ni dans la presse, ni en télévision, ni au cinéma, de vieilles amies d'enfance, son premier manager qui sait tout sur elle et qui a fourni des images inédites. Donc le film est vraiment à voir si on a un
Vous l'avez vu ?
Oui, bien sûr.
Et il est émouvant ?
Il est très émouvant. C'est l'un de ces documentaires sur des gens qui ont grandi dans une époque où on a des caméras vidéo à la maison. Donc il y a des images d'enfance, des selfies vidéo d'Amy Winehouse qui se filmait beaucoup elle-même. Déjà showgirl, se présentant, regardant la caméra à l'âge de 12-13 ans, avec une présence déjà hallucinante, alors qu'elle est dans sa chambre ou dans son salon.
Un film documentaire qui raconte la vie en images et la jeunesse d'Amy Winehouse, un documentaire qui émeut, mais qui met un peu le père d'Amy Winehouse en colère. Pourquoi ?
Oui, il a, sans demander à interdire le film ou ni même déconseiller aux gens d'aller le voir, il a estimé que le film donnait une image négative d'un certain nombre de personnes de l'entourage, dont lui-même et la famille. C'est vrai que toute la vie d'artiste d'Amy Winehouse a été entachée de ces incidents avec ses amants, son mari, ses ex-amants, son père, son beau-père.
C'était pas un long fleuve tranquille, sa vie.
Tout le monde s'en est mêlé, pour son bien ou pour le pire.
On va bien sûr revenir sur la relation d'Amy Winehouse avec sa famille, avec ses proches, avec son mari, son jeune mari. Mais avant, nous sommes le 23 juillet 2011 et Amy Winehouse est retrouvée morte. Que lui est-il arrivé ?
Amy Winehouse avait arrêté de boire et puis elle a recommencé très brutalement. Elle est donc officiellement, selon l'autopsie, décédée d'une overdose d'alcool, une forte consommation d'alcool après plusieurs semaines d'abstinence totale. Et c'est une idée qui lui a été fatale.
C'est un arrêt cardiaque ?
Oui, elle était de toute façon très faible, malade des poumons depuis longtemps. Pour une chanteuse, c'est difficile. Et puis des années, malgré son jeune âge, des années d'excès en tout genre, drogue, alcool et autres.
Alors qu'elle n'avait que 27 ans, et d'ailleurs cette mort précoce, elle alimente la légende de ce club, si j'ose dire, qu'on appelle le club des 27, des chanteurs, des artistes morts à l'âge de 27 ans. Vous nous en rappelez quelques-uns ?
Le club des 27, c'est un nom un petit peu sinistre qui est né très précisément entre 1969 et 1971, de juillet à juillet. Les fans de rock en général ont perdu successivement Brian Jones des Rolling Stones, Jimi Hendrix le guitariste, la chanteuse Janis Joplin, Jim Morrison le chanteur des Doors. Tout ça en 2 ans. Ils avaient tous 27 ans et c'est de là que vient le nom. Les seuls artistes qu'on a ajoutés à ce club sont Kurt Cobain, qui est mort au même âge en 1994, qui a mis fin à ses jours, et Amy Winehouse, morte au même âge il y a 4 ans bientôt.
Comment elle est devenue en 10 ans à peine, 2 albums, c'est ça, seulement une star internationale? C'est la question que vous vous êtes posée au Parisien Magazine. Amy Winehouse, avant d'y répondre, c'est d'abord un timbre, une voix unique.
You're just a little boy. To hide your ego, don't come with that.
un extrait de son premier album qui s'appelle Frank. C'est un album très jazzy qui sort en 2003, l'album d'Amy Winehouse.
Son premier album, elle est totalement inconnue.
Elle a 20 ans.
Tout ce qu'elle a fait, c'est d'envoyer une cassette de démonstration, une démo à une maison de disques qu'il a aussitôt signée pour enregistrer cet album. Auparavant, c'est déjà une chanteuse. On le raconte dans l'article demain, c'est dans le film. Un film amateur d'une fête d'anniversaire quand elle est adolescente. Tout le monde chante Happy Birthday et elle sort du lot. C'est extraordinaire à voir, mais à entendre. D'abord à entendre. C'est une voix brute, pas du tout étudiée. Elle n'a jamais eu de prof de musique. Amy Winehouse, elle a quitté le lycée à 16 ans pour faire des petits boulots et chanter.
Elle voulait
jazz.
Devenir une star ?
Elle voulait chanter. Elle chantait depuis toujours. Selon la légende, quand elle était à l'école et qu'elle se faisait virer d'un cours parce qu'elle était assez turbulente, elle y allait en chantant du Frank Sinatra chez le proviseur pour recevoir son heure de colle en chantant Fly Me to the Moon de Frank Sinatra.
Est-ce qu'elle composait aussi ? Est-ce qu'elle jouait de plusieurs instruments ou d'un instrument, Amy Winehouse ?
Elle a joué de la guitare très jeune, mais comme des millions d'adolescents depuis toujours, à 13-14 ans. Elle a aussitôt commencé à composer, comme aussi des millions d'adolescents, mais à 13-14 ans, c'est une jeune fille qui chante, qui compose, qui écrit ses textes.
Frédéric Béguin, elle ressemble à quoi Amy Winehouse quand elle arrive sur la scène comme ça? Elle devient star presque du jour au lendemain, elle a 20 ans, elle sort cet album Frank. Elle a un style quoi, mi-punk, mi-poupée, c'est ça?
Mais pas encore, justement.
Pas encore.
Nous avons tous en tête, évidemment, l'Amy Winehouse avec sa choucroute brune sur la tête, ses yeux de biche, ses décolletés plongeants. Et en effet, ce style mi-Betty Boop, mi-punk, c'est une fille de la banlieue nord de Londres. Dans ses documents, dans le film, quand on l'entend parler, elle n'a pas du tout une voix anglaise sophistiquée. C'est vraiment une fille de cette banlieue nord. Mais à ce moment-là, elle n'est pas comme ça. Elle a l'air d'ailleurs en très bonne santé. Les joues bien pleines, les yeux faits déjà, mais pas du tout la choucroute qu'on lui connaît. Une jeune femme qui a l'air assez délurée d'avoir vécu déjà beaucoup de choses, mais pas du tout le look dont on se souvient tous, qui date des années suivantes.
Et qui va peut-être venir avec ce deuxième album qui sort 3 ans plus tard. Rehab, c'est un raz-de-marée.
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Allô, you wanna play? We have no space or time.
Jusqu'à 22h.
My arms are stacked. I go back to black. No, that I'll take your gentle cleaners. If you come between that sheet.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une voix, c'est un destin, 2 albums fantastiques, une foule de questions. Comment cette fille des rues est devenue l'une des plus grandes voix du monde? Pourquoi a-t-elle chuté, disparu? Et finalement, il y a une partie de la réponse, Frédéric Béguin, dans le Parisien Magazine, évidemment, en partenariat avec RTL, mais surtout dans la chanson qu'on a écoutée à l'instant, Rehab. Qu'est-ce que ça raconte, cette chanson?
Rehab, en anglais, ça veut dire littéralement désintox, l'abréviation argotique d'une désintoxication. À l'âge qu'elle a au moment de cet album, elle est déjà coutumière du fait. On apprend dans le film et dans sa biographie.
Elle a 23 ans, c'est ça à peu près.
Elle a eu depuis toujours des soucis avec les médicaments, avec l'alcool, avec son poids également. Donc il y a tout ce passif, la dépression. Et tout ça, elle en parle dès cette époque elle-même très librement. Pour vous donner un exemple, j'ai regardé cet après-midi une vidéo dans laquelle elle commence la promotion de cet album et de la chanson Rehab. Fin 2006, l'album vient de sortir.
Il s'est passé 3 ans entre
son album précédent s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Tête de mule, elle a fait environ 15 concerts en 2004. Vous imaginez, vous sortez de nulle part, vous vendez 2 millions d'exemplaires d'un album, vous faites 15 concerts dans l'année, c'est rien du tout. Donc le manager et les tourneurs doivent s'arracher les cheveux. En 2005, l'année suivante, elle ne fait rien du tout. En 2006, elle compose, elle enregistre. Fin 2006, elle arrive avec cet album qui, lui, se vendra à 20 millions d'exemplaires.
Back to Black.
Elle participe à une émission de télévision en Angleterre et on lui dit, bon bah, Amy, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Où étais-tu? Et elle répond, avec son accent et sa gouaille du nord de Londres, elle dit, oh, j'ai glandé, j'ai picolé. Ça ressemble à une blague d'émission de télévision. Ouais. C'est en fait la réalité. Amy, à cette époque, a commencé à prendre des drogues beaucoup plus dures. Et en même temps, c'est bien de l'alcool qu'elle est morte à la fin. On en a parlé tout à l'heure, ouais. Hein, une overdose d'alcool. Et ce sera sans doute sa drogue la plus fidèle tout au long de sa courte vie.
Oui, celle dont elle aura le plus de mal à se débarrasser, en fait. On sait combien de cures de désintoxication elle a pu faire ou ça c'est quasiment impossible à...
Non, on ne sait pas. On sait qu'elle a sans doute commis beaucoup d'erreurs ou son entourage a commis beaucoup d'erreurs. Elle a par exemple, elle est partie en cure avec son mari qui lui-même était un toxicomane. Ils sont partis ensemble. N'importe quel psychologue et spécialiste des drogues vous dira que ce n'est pas une bonne idée.
Justement, Frédéric Béguin, elle naît dans quel milieu, Amy Winehouse? Un milieu très populaire?
Elle naît dans à Southgate, c'est une banlieue nord de Londres, à une dizaine de kilomètres du centre. Ce n'est ni le paradis ni l'enfer. Son père est chauffeur de taxi.
Middle class?
Pas tout à fait, mais son père a été chauffeur de taxi après avoir été installateur de fenêtres, petit artisan. Sa mère est pharmacienne. Elle a un frère. Elle va à l'école. Une fille de la rue, dit-on, mais c'est vrai qu'elle a arrêté. Elle a arrêté les études très vite et que visiblement, dans cet environnement, elle était plus à l'aise dehors à faire des bêtises qu'à l'école.
Dans cette chanson Rehab, qui est un de ses grands succès, à Amy Winehouse, elle parle de son papa chéri. Elle était très proche de son père.
C'est difficile à dire, parce qu'à la fois elle lui rend hommage constamment dans les interviews et on le voit dans le film, en racontant que finalement sa passion pour Sinatra, par exemple pour Frank Sinatra, vient de son père qui chantait constamment du Sinatra. Il y a aussi des chanteuses et des musiciens de jazz dans sa famille, mais amateurs ou des chanteurs ou des musiciens de pub. Donc famille très musicale. Elle parle très souvent de son père. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle en était proche ou parce qu'elle voulait en être proche? Ça, je ne le sais pas. Elle parle beaucoup de lui. Elle parle de lui dans Rehab, qui semble être le monsieur qui veut l'envoyer en cure de désintoxication. Elle refuse, dit-elle, je préfère être à la maison à écouter Mary Charles. Toujours ces allers-retours entre sa passion et ses démons.
Comme souvent, les chansons racontent la vie des artistes. C'est le cas aussi pour Amy Winehouse, par exemple. Love is a losing game. L'amour est un jeu perdu d'avance, c'est dans l'album Back to Black. Elle n'était pas heureuse en amour, elle l'a jamais vraiment été, est-ce qu'on peut dire?
Audiblement non, parce que dans cette chanson, dont le texte est très simple mais très beau, elle répète presque tous les deux vers le titre. L'amour est un jeu perdu d'avance. Donc on sent qu'elle est désespérée et en même temps qu'elle veut y croire, ou ne même pas y croire, mais participer à ce jeu perdu d'avance quoi qu'il arrive. Donc elle se donne entièrement. Moi, ce qui me frappe dans ses textes, dans sa voix, on l'a beaucoup comparée à des chanteuses de jazz mythiques des années 30 à 50, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, des femmes qui ont eu des vies beaucoup plus longues que la sienne.
Dures parfois.
Billie Holiday, on a raconté beaucoup plus d'histoires ici même, fracassée aussi. Ouais.
Voilà, vie fracassée, mais sur plusieurs décennies. On a l'impression que quand elle arrive à 20 ans et qu'elle devient une star du jour au lendemain, Amy Winehouse est déjà vieille. Elle parle de l'amour avec une résignation qui n'est pas celle d'une jeune femme de 20 ans.
Mais elle est mariée ?
Oui, c'était qui son amoureux ? Ouais. Ou ses amoureux ?
Elle a eu principalement un amoureux qui a fini par être son mari, le Blake Fielder, qu'elle rencontre après son premier album. un gars de l'Est de l'Angleterre qui a quitté l'école à 16 ans, qui est venu tenter sa chance à Londres dans la production vidéo. Donc on le présente toujours comme un réalisateur de clips. Je suis pas certain qu'il ait fait grand chose. Et son principal talent a été d'être un toxicomane aux drogues dures, héroïnomane. Amy Winehouse elle-même, après avoir divorcé de ce garçon au bout de 2 ans de mariage, a dit le ciment de ce mariage, c'était l'héroïne. Ça a d'abord été son amant avant d'être son mari. Elle en parle hein, dans des chansons, notamment des chansons. Ils n'ont pas arrêté de se quitter, de se retrouver. Elle lui raconte des infidélités en lui disant « Ah, c'est pas très grave, il te ressemblait. »
Amy Winehouse qui a eu un coup de cœur aussi pour un rocker, le leader des Libertines et des Baby Shambles, c'est Pete Doherty, son ami, qui s'est confié au Parisien Magazine. À tout de suite dans La Curiosité.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h.
Tonight you're mine completely.
RTL.
Will you still love me tomorrow?
La curiosité est un vilain défaut.
Talented and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking and when she passes each one she passes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Elle avait le blues en elle, ce sont les mots absolument magnifiques et terribles du rocker Pete Doherty pour parler de son amie Amy Winehouse. Pardon. Il s'est confié au Parisien Magazine, Frédéric Béguin. C'est le chanteur des Baby Shambles et des Libertines. Comment ils se sont rencontrés, Amy et Pete?
Ils sont arrivés sur la scène à peu près au même moment, Pete Doherty avec les Libertines un petit peu avant. Ils se rencontrent en 2004 dans une émission de télévision et Pete Doherty nous raconte une forme de coup de foudre en coulisses.
Amoureux, amical ?
Amical, artistique. Il nous dit aussi qu'ils ont aussitôt commencé à flirter, je n'en sais rien, mais ils sont devenus presque instantanément de très bons amis.
Qu'est-ce qu'ils partageaient ? Les mêmes références musicales le même rapport à la célébrité un peu compliqué
Pas tellement les références musicales, parce qu'elle vient plutôt du jazz et de la soul, et que lui vient plutôt du punk et de la pop britannique. Mais en revanche, une attitude, quelles que soient les références, une attitude, et lui, nous dit-il, une fille qui parlait de la vraie vie dans les rues de Londres. Et c'est surtout ça qu'ils avaient en commun. Il l'a décrit comme un mélange de gangsters et de jeunes femmes très raffinées. Et donc il nous dit, avec cette apparence, le soin qu'elle a porté à son style, à sa voix, évidemment, son écriture, qui est vraiment magnifique pour une jeune fille sortie de nulle part, et en même temps, oui, une attitude de gangster que lui connaissait bien, puisqu'il avait un petit peu la même. On a connu les frasques de l'un et de l'autre, et à une époque, dans les journaux britanniques, tous les jours, ou presque, on avait droit aux frasques.
C'était pas l'ex de Kate Moss, non ?
Oui.
Oui, voilà.
Ils étaient chassés par les tabloïds l'un et l'autre.
Oui, mais en même temps, ils s'en sont beaucoup plaints. Ils ne s'en protégeaient pas. Ils ne se protégeaient pas non plus des fans.
Mais comment s'en protéger ?
On peut. Il y a des gens qui savent très bien s'en protéger. On n'est pas obligé de donner son adresse à tout le monde. On n'est pas obligé de laisser venir les fans chez soi. On n'est pas obligé d'échanger un bout d'interview contre une dose de drogue.
Ce qu'a fait Amy Winehouse ?
Ce que faisait Pete Doherty, et ils étaient beaucoup ensemble. Tout le monde savait à quel endroit ils vivaient, les fans, les journalistes. L'entourage, il est arrivé que des entourages vendent des interviews à la presse britannique avec des confidences assez sordides. Donc, ils ont partagé ça, à la fois cette espèce de romantisme, mais aussi cette autodestruction, et cette autodestruction devant tout le monde, sous l'œil d'une presse anglaise, comme on la connaît, qui peut être avide et prête à tout dans ces cas-là.
Pete Doherty qui rend hommage à son ami Amy Winehouse dans cette chanson qu'il a écrite en mars dernier.
Let's have it right. We all know the score. Been up for 3 nights. Stuck behind the door. Chewing off your jaw. Famous stone jewelry. You soldiered it.
Que raconte cette chanson ?
Flags of the Old Regime.
C'est une chanson dans laquelle Peter Doherty s'adresse à son ami, à feu son ami, en lui parlant de célébrité, en lui disant cette célébrité vers laquelle on t'a poussé à coups de pierre. Elle a fait ta fortune, tu l'as assumée, tu l'as supportée, tu en as fait ta vie et en même temps elle t'a détruite. Et visiblement, audiblement, il sait de quoi il parle parce qu'au refrain, il passe à la première personne et il dit moi je voulais pas mourir et je ne veux toujours pas mourir. Parce qu'il est passé par les mêmes moments. Elle est morte, pas lui, c'est un survivant. Il a enregistré cette chanson au profit de la fondation Amy Winehouse qui vient en aide aux toxicomanes et aux alcooliques.
Et d'une certaine façon, d'ailleurs il le dit je crois dans l'interview que vous publiez demain dans le Parisien Magazine, il dit qu'elle voulait s'autodétruire.
Il dit que l'autodestruction est quelque chose de très difficile à interrompre. Il a l'air de parler en connaissance de cause. Et il dit dans la chanson que on peut être dans l'autodestruction sans être suicidaire, sans vouloir mourir. C'est un survivant qui nous parle et qui parle. C'est très émouvant. La conversation avec lui a été très émouvante. Ils étaient très proches. Ils ont failli enregistrer ensemble une reprise de. Ils voulaient faire une reprise de Billie Holiday justement, cette grande diva à la vie mouvementée et difficile. Ça n'a jamais été possible. Il nous le dit parce qu'elle a disparu.
Et dans le Parisien Magazine à découvrir demain, vous racontez aussi une rencontre formidable entre Amy Winehouse et le jazzman Tony Bennett. Ils ont partagé un duo et un moment extrêmement fort. Mais ça, c'est à lire dans le Parisien. Demain, merci à vous infiniment pour ce bon moment
merci
autour de cette star
qui manque, Amy Winehouse.
Vous écoutez RTL.